Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Ouvrez vos Bibles au 10e chapitre de l'Évangile de Jean. Il est très intéressant de parcourir le livre de Jean le matin et les Actes le soir, parce que dans le récit des premiers chapitres des Actes, Pierre est le prédicateur. Avec l'Évangile de Jean, Jean est l'écrivain. Bien sûr, ils étaient copains. Ils sont ensemble dans les premiers chapitres des Actes. C'est donc un plaisir spécial d'entendre Jean, alors qu'il arrive enfin à dire quelque chose, de très nombreuses années après que Pierre ait prêché à la Pentecôte, et ainsi de voir à quel point l'écriture de Jean concernant la personne du Christ et la prédication de Pierre concernant la personne du Christ sont parallèles. Nous sommes donc, en quelque sorte, en train de doubler Pierre et Jean en ces jours, et de présenter les gloires du Sauveur qu'ils ont aimées et proclamées. Le 10e chapitre de Jean est un tournant, comme vous le savez, dans l'histoire de Jean. C'est le chapitre qui enregistre le dernier récit que Jean donne du ministère public de Jésus. À la fin de ce 10e chapitre, Jésus s'en va pendant environ 3 mois, et il passe du temps avec ses disciples. Il revient dans le 11e chapitre et ressuscite Lazare d'entre les morts, fait une entrée triomphale dans le 12e chapitre. Puis Jean note les chapitres 13 à 16, une nuit dans la chambre haute, les promesses que le Seigneur a faites à ses disciples et à tous ceux qui viendraient après eux, nous y compris. Le 17e chapitre est donc cette incroyable entrée dans le Saint des Saints, le sanctuaire de la prière privée et de la communion du Christ avec son Père. Cette grande prière du grand prêtre qu'il a priée avant sa mort. Le chapitre 18 parle de son arrestation suivie de sa mort et de sa résurrection. Puis la restitution de Pierre et la commission des disciples terminent tout dans le dernier chapitre. Ainsi, le chapitre 10 est essentiel, parce que Jean veut s'assurer que rien n'est laissé de côté en termes de revendication de Christ. C'est, en un sens, un résumé de ce qu'était son dessein, comme il le dit au chapitre 20 et au verset 31. « Mais ces choses ont été écrites, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean amasse des preuves que vous pourriez croire, afin que vous ayez la vie éternelle. La vie éternelle, comme nous l'avons appris, ne vient que par la foi dans le Christ. Ainsi, son objectif culmine ici dans ce 10e chapitre. Il ne veut laisser aucune erreur quant à la revendication que Christ a faite et ce qui est nécessaire de croire en lui pour recevoir la vie éternelle. C'est pourquoi vous avez les mots du verset 30. Regardez le verset 30 du chapitre 10. « Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur répondit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous ? » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu, au sens propre. » Il savait exactement ce qu'il réclamait. Au verset 36, « Tu blasphèmes. M'accusez-vous de cela ? Et parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. » Ici encore, nous avons la synthèse de tout le dessein de Jean. Clarifier la prétention de Jésus à être Dieu, posséder la nature et l'essence même de Dieu, et donc s'appeler légitimement le Fils de Dieu, celui qui porte la même nature, et de le prouver par ses œuvres. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ne vous méprenez pas, car c'est à travers tout l'évangile de Jean, certainement ici, il est impossible de déformer cela. Lorsqu'il a dit « Moi et le Père, nous sommes un », il ne revendiquait pas l'unité de but, l'unité de mission, l'unité d'attitude. Il revendiquait l'unité de l'essence, l'unité de la nature. C'est pourquoi ils l'ont appelé blasphémateur, car il était un homme qui leur disait qu'il était Dieu. C'est la grande revendication de l'Évangile, que Jésus, tout en étant pleinement homme, était aussi pleinement Dieu. Il a pris le titre, Dieu le Fils de Dieu. C'est le caractère unique de sa personnalité en tant que Dieu dans la Trinité. Il y a une nature, une essence, mais en trois personnes distinctes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dans le chapitre 19 de Jean, jusqu'au moment même où la population de Jérusalem et les chefs spirituels pressent les Romains de crucifier Jésus. Verset 7 de Jean 19. Les Juifs disent ceci. Nous avons une loi, la loi mosaïque, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Il ne l'a pas simplement revendiqué, il l'a prouvé. Verset 37. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Les dirigeants du judaïsme religieux et les gens qui les ont suivis étaient des vrais blasphémateurs, tout comme la prophétie d'Ésaïe dans l'Ancien Testament l'avait prédit. Qui a cru notre rapport? À qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Le prophète prédit que lorsque le Messie viendra, ils ne croiront pas. Ésaïe poursuit en disant que nous ne l'estimions pas, nous lui avons donné aucun honneur. Nous ne l'avons pas vu comme notre Messie. Ce rejet juif, au fait, cette hostilité juive envers le Seigneur Jésus-Christ, existe aujourd'hui, même parmi le peuple juif. Je lis depuis plusieurs mois un livre horrible, intitulé « Bloodlands ». Bloodlands est un livre d'histoire, un livre profond qui fait la chronique du massacre de 14 millions de personnes dans les terres, du sang entre Staline et Hitler. C'est là que commencent les génocides qui aboutissent au massacre de millions de Juifs. La souffrance de ce peuple est au-delà de l'imagination, au-delà de la compréhension. La tragédie de tout cela est qu'ils connaissaient la vérité sur le vrai Dieu vivant, le Dieu unique, le Dieu créateur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Moïse et d'Abraham et de David. Ils connaissaient ce Dieu, mais quand il a envoyé son Sauveur pour les racheter, ils l'ont rejeté. Ils continuent à le faire. À travers toute cette histoire de rejet national, bien sûr, il y a un reste de Juifs qui croient. Ils sont tous en Christ, avec tous les païens qui croient, nous dit l'Écriture. Mais alors que ce chapitre se termine, la courte histoire de Jean sur le ministère public de Jésus, il culmine dans le même genre de colère et d'hostilité contre Jésus que nous avons vu tout au long de son ministère. En fait, pour la quatrième fois, ils essaient de le prendre et de le tuer. Plus il dit, plus il se réclame de son identité, plus il démontre que c'est réel, plus leur cœur devient dur. Donc, c'est le point culminant pour Jean. Puis Jésus disparaît. Tout cela est-il mauvais? Non, parce qu'à la fin du chapitre, quand il s'en va au-delà du Jourdain, le verset 42 dit « C'est ainsi que le chapitre se termine. » Et, dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. C'était comme s'il devait sortir de Jérusalem. Il a dû passer par le Jourdain où Jean l'a baptisé, puis ailleurs sous le pouvoir et l'influence du système religieux. Nous regardons cinq scènes ici, en quelque sorte. Nous avons commencé avec eux. La première scène est la confrontation, brièvement. Revenez au verset 22. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. Vous vous souvenez que c'était ce que les Juifs appellent aujourd'hui Hanouka, ou la fête des Lumières, à cause de la façon dont ils la célébraient. Une célébration de 8 jours. Le 25e jour de Kislev, en novembre et en décembre chaque année. Ils célèbrent en allumant des lampes et des bougies dans leur maison. Et ils le font pendant 8 jours. C'est ce qu'on appelle la fête des Lumières, ou Hanouka. Il a été essentiellement établi pendant la période intertestamentale, lorsque Judas Maccabée a chassé les envahisseurs païens, Antioche Épiphane et son peuple, et ils ont à nouveau sécurisé le temple et rétabli le culte. Afin de célébrer cela, cette fête a été mise en place. Ce n'est pas une fête biblique, mais c'est une fête historique. Ceci est une autre des fêtes qui se sont déroulées dans l'évangile de Jean, à partir du verset 5. Jésus continue d'apparaître à Jérusalem lors des fêtes, et les mêmes choses se produisent. Il parle, il le renie, ils veulent le tuer, il s'échappe, et nous y revoilà, donc, avec le même genre de cycle. Maintenant, à cette fête, Jésus marche dans le temple sous le portique de Salomon. Souvenez-vous maintenant que c'est ce qui restait du mur de soutènement massif, qui faisait partie du temple de Salomon, qui a été détruit en 586 avant Jésus-Christ. Ce mur n'a pas été détruit. Il a ensuite été réaménagé en colonnade ou en porche, un endroit populaire pour se protéger du soleil ou des intempéries. C'était l'hiver. Jésus marche là-bas, un endroit où nous trouvons les apôtres dans l'enseignement du livre des Actes. Les Juifs, ce seraient les chefs religieux. Jean se réfère généralement à eux quand il utilise ce terme. Et leurs disciples se sont rassemblés autour de Jésus pour lui dire « Mais il y a une telle hypocrisie là-dedans, car il y a répondu tant de fois. Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense ?» Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Par ce genre de confrontation, ils n'ont qu'un seul objectif en tête, et ce n'est pas celui d'obtenir des informations. Ils veulent inciter la foule pour aboutir à la mort de Jésus. C'est une confrontation. Puis nous avons vu la réclamation. Nous sommes arrivés à la réclamation. Revenons à cela. Au verset 25, Jésus leur répondit, « je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Combien de fois vous l'ai-je dit ?» Lors de la section faite au chapitre 5, à plusieurs reprises dans le chapitre 7, à plusieurs reprises dans le chapitre 8, je vous l'ai dit de nombreuses fois. De toute évidence, ils comprennent sa revendication. Ils veulent simplement justifier le fait de le prendre et de l'éliminer. Puis, ils valident la réclamation de la même manière qu'il l'a fait tout au long du verset 25. Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. C'est le problème. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendre témoignage de moi. Nous avons vu la dernière fois que le problème était « Vous ne croyez pas ». C'est à travers tout l'évangile de Jean. C'est la question du point de vue humain. « Vous ne croyez pas ». Vous pouvez revenir en arrière, commencer au chapitre 1, puis dans chaque chapitre, sauf le chapitre 2. Jusqu'à ce point précis, il y a un appel pour que les gens croient, et un avertissement que, s'ils ne croient pas, ils ne recevront pas la vie éternelle. Tout au long de l'histoire, il leur est ordonné de croire. Ils sont appelés à croire. Ils sont avertis pour croire. C'est le côté humain. Nous avons vu cela. Le salut vient en croyant. En fait, revenez au chapitre 8, juste une minute. Je ne peux pas me laisser prendre à tout revoir, parce que je sais que vous vous en souvenez. Au chapitre 8, verset 21, il leur dit, « Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Vous n'irez pas au paradis. Pourquoi ? Verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que je suis celui que je prétends être, je suis le je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est simplement une illustration de quelque chose qui se répète encore et encore, à partir du chapitre 1, verset 12. Tous ceux qui le reçoivent, il leur a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu, même ceux qui croient en son nom. C'est le côté humain. Vous devez croire que je suis celui que je prétends être. Maintenant, bien sûr, Matthieu nous aide à avoir un aperçu de ce qu'il croyait. Dans le chapitre 12 de Matthieu, l'un des commentaires les plus terrifiants que les pharisiens et les chefs religieux d'Israël n'aient jamais fait. Matthieu 12, 24. C'est ce qu'il croyait. Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Il est satanique. C'est ce qu'il croyait. Il croyait qu'il avait fait ce qu'il a fait par la puissance de Satan. Verset 31. C'est pourquoi je vous le dis, tout péché et tout blasphème seront pardonnés, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Si vous regardez ce que l'Esprit Saint a fait à travers moi, et que vous concluez, après toutes les preuves, que c'est Satan, vous ne pourrez jamais être pardonné, parce que vous avez fait cette mauvaise conclusion, à 180 degrés, après toutes les preuves. Vous êtes les blasphémateurs. Que croyaient-ils de Jésus? Leur mantra était, il est satanique. Ils ont tout fait pour en convaincre les gens. Maintenant, notez cela, et nous en avons parlé la dernière fois. Le salut vient à ceux qui croient. Mais je veux que vous reveniez au verset 26. Reprenons cela pendant quelques instants. Mais vous ne croyez pas. C'est là que nous avons fini. Mais vous ne croyez pas. Puis le verset 26 dit ceci. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Quelle déclaration! C'est le côté divin. Vous ne croyez pas. Vous êtes entièrement coupable de cette incrédulité, et vous serez tenu pour éternellement responsable de cette incrédulité. Vous recevrez une juste punition pour cette incrédulité. Mais le côté divin est « Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Vraiment, une déclaration étonnante. Vous ne m'appartenez pas. Revenez au chapitre 10 et au verset 4. Vous vous souvenez de la paroimia, l'analogie, de la métaphore, de la comparaison. Du mot « image » du berger. Verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. C'est vrai pour les bergers. Nous avons vu que lorsqu'un berger entre dans une bergerie le matin, les moutons y ont été gardés. les moutons du village. Il y a beaucoup de bergers qui ont rassemblé tous leurs moutons ensemble dans un seul troupeau pendant la nuit. Et le matin, ils viennent et prennent leurs propres moutons, et chaque mouton connaît la voix de son propre maître. C'était quelque chose qu'il connaissait. Mais à quoi cela fait-il référence? Allez au verset 14. « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et elles me connaissent. Je connais les miens. Les miens me connaissent. Et vous n'êtes pas de mes brebis. Comment savons-nous qu'ils ne sont pas ses brebis? Parce qu'au chapitre 8 et au verset 43, Jésus dit « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous ne pouvez pas m'entendre. Vous ne connaissez pas ma voix. Pourquoi? Parce que vous êtes de votre père le diable, et que vous voulez faire les désirs de votre père. Il était un meurtrier depuis le début. Il ne tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Chaque fois qu'il dit un mensonge, il parle de sa propre nature, car c'est un menteur. Il parle de sa propre nature, car c'est un menteur et le père du mensonge. Parce que je dis la vérité. Vous ne me croyez pas ? Verset 47. Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. Pour cette raison, vous ne les entendez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. C'est une autre façon de dire, vous n'êtes pas mes brebis. C'est une déclaration stupéfiante. Vous n'êtes pas mes brebis. Nous avons commencé à voir ce dessein souverain de Dieu dans le salut, très tôt dans l'évangile de Jean. Au chapitre 3, quand Jésus parle à Nicodème, que Nicodème pose cette question sur la vie éternelle, comment cela va se passer? Jésus lui explique que c'est un miracle surnaturel et céleste. Le ciel doit descendre et faire en sorte que cela se produise. C'est comme une naissance. C'est une création. Et personne ne peut se créer. Alors la question se pose. Comment cela se passe-t-il? Jésus dit ceci. Le Saint-Esprit va et vient, comme il le veut. Ce n'est pas à votre discrétion. C'est à sa discrétion. J'ai regardé un évangéliste hier soir à la télévision dire aux gens de prendre une décision pour Christ. Les implorer. Jouer de la musique et les supplier constamment. C'est quelque chose qu'un pécheur ne peut pas faire. Un pécheur ne peut pas prendre de décision pour Christ. Le Christ doit prendre la décision pour le pécheur. Dans Jean 6, et nous l'avons déjà vu, dans Jean 6, 37, « Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Le Père connaît les brebis. Le Père a choisi les brebis. Identifiez les brebis. Écrit leur nom. Le Père me donnera les brebis en son temps, et elles viendront à moi. » Celui qui vient à moi, je ne le rejetterai certainement pas parce que je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, comme si j'avais une volonté différente de celle du Père, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est la volonté de celui qui m'a envoyé que, de tous ceux qu'il m'a donnés, je n'en perde aucun, mais les ressuscite au dernier jour. Personne, verset 44, ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Dans sa grande prière sacerdotale, il prie pour ceux que le Père lui a donnés. Ce sont des réalités profondes. Regardez, je crois pleinement la responsabilité du pécheur de se repentir et de croire. Mais je crois aussi pleinement dans le dessein souverain de Dieu qui a choisi ses brebis, qui connaît ses brebis, appelle ses brebis. Elles entendent, elles viennent, le Christ les reçoit, les garde et les élève. J'avoue que je n'ai jamais pu harmoniser confortablement ces deux réalités, mais je ne changerai ni l'un ni l'autre non plus en proposant un compromis bizarre, conçu par l'homme. Les gens qui ont crucifié Jésus étaient entièrement responsables de cela. Ils ont été jugés pour avoir fait cela. Ils ont été condamnés pour cela. Pourtant, dans son sermon du jour de la Pentecôte, Pierre a dit que tout l'acte avait été accompli par le conseil et la prescience prédéterminée de Dieu. Il le répète à nouveau au chapitre 4, « Que tu as fait sur terre seulement ce que le ciel avait déjà déclaré être fait. Un jour, nous connaîtrons les pensées de Dieu. Un jour. Mais pour l'instant, nous implorons les pécheurs, comme Jésus l'a fait, les suppliant de croire. Et nous revenons à un lieu de réconfort dans le dessein souverain de Dieu. Vous savez, c'est une chose écrasante lorsque vous regardez plus attentivement la personne du Christ. Je vous ai dit cela dans le 6e chapitre. Lorsque les disciples sont partis, beaucoup de ceux qui l'avaient suivi pendant un certain temps l'ont quitté, l'ont abandonné, se sont finalement éloignés de lui. La langue grecque dit la finalité. C'est déchirant. Comment peuvent-ils s'éloigner de lui? C'est inconcevable pour moi. Où va-t-il pour se réconforter lorsque les disciples l'abandonnent? Vous vous en souvenez? Il fait ceci. Il dit, « Quiconque a entendu et appris du Père vient à moi. Jésus a trouvé son réconfort dans le rejet des peuples, dans les desseins souverains de Dieu. Encore une fois, je ne sais pas comment tout cela se concorde ensemble. Il me semble y avoir des éléments de contradiction. Mais Dieu n'est pas contradictoire avec lui-même. C'est une impossibilité. Alors, je dis que cela vient de mon esprit faible. Verset 27, il dit « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. C'est tellement hermétique et absolu qu'il m'est impossible d'échapper à la réalité de cette chaîne de buts souverains et d'intentions divines. Mes brebis entendent ma voix. Vous ne m'entendez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. C'est pour le réconfort du Rédempteur. C'est incroyable. C'est la fin pour lui. Il a fini. Presque 3 ans de ministère. C'est là que cela se termine. Tu fais ce que tu fais par le pouvoir de l'enfer, pas du ciel. Il dit que vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Vous mourrez dans vos péchés parce que vous ne croyez pas. Puis il revient dans son propre lieu de réconfort en disant « Mais vous n'êtes pas mes brebis parce que mes brebis entendent ma voix et je les connais. » Comme nous l'avons vu plus haut au chapitre 10, « Ils ne suivront pas un étranger. Ils me suivent et je leur donne la vie éternelle. Elle est éternelle. Ils ne périront jamais. Personne ne les enlèvera jamais de ma main ou de la main de mon Père. » C'est essentiellement le grand aperçu du salut divin souverain. Dieu choisit, attire, tient, élève, et personne n'est perdu dans le processus. Mes brebis entendent ma voix. Les vrais moutons sont impatients d'entendre la voix du maître. Revenez un instant au verset 3. Au berger, le portier ouvre. Le portier, le type qui surveillait le troupeau la nuit. Les brebis entendent sa voix. Et il appelle ses propres brebis par leur nom et les fait sortir. Verset 4. Nous le lisons. Elles le suivent. Verset 5. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voie des étrangers. Combien de réconfort je voulais donner à nos missionnaires, il y a quelques semaines, qui sont là-bas partout dans le monde, à lutter contre la fausse religion, pour leur rappeler qu'ils vont devoir trouver leur réconfort dans le fait que les brebis qui appartiennent à Dieu ne suivront jamais un étranger. Elles ne suivront jamais un faux enseignant. Elles suivront la voie de leur maître. Soyez fidèles. C'est là que notre Seigneur a trouvé son encouragement. Si on est choisi pour être une brebis, si quelqu'un est conçu pour être un cadeau d'amour du Père au Fils, pour l'aimer et le servir pour toujours dans la gloire éternelle, il est en sécurité dans ce choix. Écoutez-le. Il est assuré dans ce choix, qui est ensuite élaboré dans l'histoire rédemptrice. La vie éternelle est éternelle. Cela vous semble-t-il exagéré? Les gens disent, pouvez-vous perdre votre salut? Quel genre de vie s'agit-il? Une vie temporaire? Une vie temporelle? C'est la vie éternelle. Juste au cas où cela serait déroutant, Jésus dit, « Et ils ne périront jamais. » Donc, vous avez du positif. Je leur donne la vie éternelle. Un point négatif. Et ils ne périront jamais. Jamais. Périr, c'est être séparé de la vie éternelle en la mort éternelle. Personne qui possède la vie éternelle n'en sera séparé. Personne. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Tous ceux qui viennent à moi, je les recevrai. Je n'en refuse aucun. Je les élève tous à la gloire. Votre salut éternel repose sur le décret éternel de Dieu. Vous vivrez éternellement, parce que Dieu vous a choisi pour vivre éternellement. Vous ne périrez jamais, parce que Dieu a conçu le salut de cette façon. Vous donnez un salut éternel, qui naît littéralement d'une foi qui ne peut pas mourir. Quelqu'un dira, d'accord, c'est la vie éternelle. Bien, elles ne périront jamais. Mais quelqu'un pourrait venir les saisir. Oh, vraiment, personne ne les arrachera de ma main. Personne. C'est mon Père qui me les a donnés. Je n'ai pas le temps de revenir sur tout cela. Comprenez-vous que chaque personne sauvée est un cadeau d'amour du Père au Fils. Chacun d'entre eux. La raison pour laquelle vous êtes un croyant est parce que Dieu vous a choisi avant la fondation du monde, a écrit votre nom dans un livre pour être un cadeau d'amour à son Fils. Une partie de l'épouse composite que le Père a recherchée dans ce monde pour la racheter et la donner à son Fils, pour l'amener à la gloire pour un mariage, une fête de mariage et une ville nuptiale, pour vivre éternellement, pour honorer et glorifier l'époux. Toute l'histoire rédemptrice est que Dieu rassemble une épouse pour son Fils. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout. Qui va les arracher? Qui serait-ce? Il n'y a personne de plus grand que Dieu. Personne. Ainsi, personne n'est capable de les arracher de la main du Père. Ma main, au verset 28, devient la main de mon Père, au verset 29. Si vous remettez en question ma capacité à tenir mes brebis, alors vous remettez en question la capacité de mon Père à tenir ses brebis. Le violent sacrilège peut clouer mes mains sur une croix. L'épée frappera le berger, mais personne ne peut déjouer, surprendre ou vaincre mon Père. Donc, aucun ne peut affecter la sécurité des moutons. Dans Jean 17, Jésus prie pour que, pendant qu'il traverse les horreurs de la séparation d'avec Dieu, le Père garde les brebis. « Garde-les, dit-il. » Il n'y a pas de passage plus fort dans la parole de Dieu garantissant la sécurité absolue de chaque véritable enfant de Dieu. Si nous le répandons un peu, nous sommes en sécurité, parce que nous sommes choisis par Dieu pour son troupeau. Nous sommes les brebis de Dieu. Christ est notre berger, et son devoir est de nous recevoir, de prendre soin de nous, de nous protéger, de nous nourrir. Suggérer qu'il ne peut pas accomplir cela, c'est blasphémer le bon berger, blasphémer le berger ultime, qui est Dieu lui-même, parce qu'ils font cela ensemble. Nous sommes en sécurité parce que nous suivons le Christ, aucune exception. Nous ne suivons pas les étrangers. Quand vous voyez quelqu'un qui était là pendant un moment, puis qui disparaît, c'est 1 Jean 2,19. Ils sont partis parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils auraient continué avec nous. Mais ils sont partis pour qu'il soit rendu manifeste qu'ils n'ont jamais été des nôtres. Nous sommes en sécurité parce que nous avons reçu la vie éternelle. Dire que cela a une fin est une contradiction dans les termes et rend la promesse absurde. Nous sommes en sécurité parce que la vie éternelle est donnée. Elle est donnée. Je donne la vie éternelle. Nous ne l'avons pas méritée. Nous ne pouvons pas y renoncer. Nous n'avons rien fait pour la recevoir. Nous ne pouvons rien faire pour y renoncer. Le Seigneur lui-même déclare que nous ne périrons jamais. Aucune de ses brebis n'ira jamais en enfer. Si elles le font, Christ est un menteur. Si Christ est un menteur, alors nous sommes tous sur le chemin de l'enfer. Nous sommes en sécurité, parce que nous sommes doublement tenus par la main du Père et celle du Fils, et personne ne s'approche de leur pouvoir. Je veux dire, c'est l'intérêt de Romains 8, n'est-ce pas? Qui nous séparera de l'amour de Dieu et du Christ? Rien, ni personne. Christ et Dieu nous tiennent ensemble. Si une âme qui appartient au Christ manque au ciel, s'il y a une pièce vacante dans la maison du Père, s'il y a une couronne inutilisée, alors Dieu n'est pas Dieu. C'est sur cette déclaration même que le Fils et le Père sont en parfaite harmonie, en accord, en puissance, en dessein, en sécurisant ses brebis, qui donne à Jésus une autre occasion de déclarer qui il est. Au verset 30, la revendication vient avec force. Moi et le Père, nous sommes un. Il passe pour simplement montrer comment ils sont dans la sécurisation des rachetés, les élus. Et maintenant, il fait la déclaration d'une manière certaine. Nous avons une souveraineté égale, un amour égal, un pouvoir divin égal pour sécuriser les brebis, parce que nous sommes égaux, parce que nous sommes un par essence. Au chapitre 17, verset 10, Jésus s'adresse au Père dans cette prière. « Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Toutes les brebis qui appartiennent au Père appartiennent au Fils. Nous partageons tout. » Verset 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout se soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Ce qu'il dit, c'est que l'unité que le Christ a avec le Père est une unité d'essence qui est divine, surnaturelle, éternelle et sainte. Nous, en tant qu'humains glorifiés, ne deviendrons pas Dieu, mais des humains glorifiés partageront cette réalité. C'est ce que les Écritures veulent dire quand elles disent que nous serons comme Christ, car nous le verrons tel qu'il est, nous serons conformes à son image. Ainsi, lorsque notre Seigneur dit « Moi et le Père, nous sommes un », il parle de la nature essentielle. Vous devez comprendre cela. Il regarde le visage d'un charpentier galiléen. C'est une réclamation assez stupéfiante. Il vous faudrait une tonne de vérification, et il venait d'en avoir pendant 3 ans. L'apôtre Paul, dans Colossiens, dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. ne vous méprenez pas sur Christ. Ne laissez aucun professeur, écrivain, expert ou philosophe vous confondre. Toute la plénitude de la divinité habite en lui, sous forme corporelle. Il est Dieu. C'est la revendication du christianisme. C'est pourquoi, quand il parle avec une telle autorité. Les gens de notre monde ne veulent entendre personne parler avec autorité, en particulier le Seigneur Jésus-Christ, avec les normes qu'il a. C'était tout ce qu'il pouvait prendre. Verset 31. Les Juifs ont repris des pierres pour le lapider. Encore. Les voilà à ce niveau de conflit le plus bas. Il existe plusieurs niveaux de conflit. Nous les avons en quelque sorte examinés, il y a quelques semaines. Mais c'est le niveau le plus bas. Si bas que vous ne pouvez pas faire d'arguments. Vous ne pouvez pas faire de cas. Vous n'y pensez même pas. Vous voulez juste tuer votre adversaire. Au chapitre 5, verset 17, Jésus dit « Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Je fais ce que le Père fait quand le Père le fait. Je ne fais pas plus attention à vos lois du sabbat que Dieu ne le fait. C'est pourquoi les Juifs cherchaient d'autant plus à le tuer, parce qu'il ne rompait pas seulement le sabbat, mais il appelait aussi Dieu son propre Père, se rendant égal à Dieu. Cela remonte à des mois plus tôt. Des mois et des mois plus tôt, il savait exactement ce qu'il disait. Il proclamait sa divinité. » Chapitre 7, verset 1. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Chapitre 8, verset 59. Il venait de déclarer que, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha, et il sortit du temple. Nous avons maintenant la quatrième tentative de le tuer au verset 31. Il y aura un effort ultérieur au verset 39. À propos, le temple était toujours en construction, et il y avait donc beaucoup de roches qui traînaient. Il est vrai que selon Jean 18, 31, les Romains ont ôté aux Juifs la peine capitale. Les Romains ont maintenu le droit de prendre une vie. Mais ce n'était pas une forme de jurisprudence. Ce n'était pas une procédure légale. C'était la vengeance et la colère de la foule religieuse. S'ils avaient pu, ils l'auraient tué sur le champ. Pourquoi une telle hostilité? Je pense que Jésus nous a donné l'indice. Revenez à Jean 7, ses frères. Aucun d'eux ne croyait en lui. Alors Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours d'actualité. Le monde ne peut vous haïr. Pourquoi? Ils ne sont pas croyants. Cela aurait également été vrai pour les disciples qui croyaient, mais ne confrontaient pas encore vraiment avant la prédication. Mais vous en faites partie. » Il dit à ses frères incrédules, « Moi, on me hait. Pourquoi? Parce que j'offre le paradis? Parce que j'offre la vie éternelle? Parce que j'offre la joie éternelle? Non. Parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. C'est le chemin direct vers la persécution. Je ne pense pas que quiconque n'ait jamais été persécuté au nom du christianisme pour avoir offert le paradis aux gens. Je ne pense pas. Je ne pense pas que les gens soient persécutés pour avoir dit aux gens que Jésus les aime et veut pardonner leurs péchés. Et c'est ce que les gens disent. Je ne pense pas que quiconque n'ait jamais été persécuté pour avoir dit que Dieu avait un but pour votre vie. Et pourquoi ne pas chercher ce but? Toute approche sentimentale de la prédication de Jésus évitera la persécution. Mais quand vous dites aux pécheurs que leurs actes sont mauvais et accablants, vous serez persécutés. Ainsi, la confrontation est une enquête hypocrite. Pourquoi ne dites-vous pas qui vous êtes vraiment? La revendication est une revendication claire et sans équivoque de la divinité. Ils réagissent comme une foule voulant écraser sa vie. Mais il les arrête parce que son temps n'est pas encore venu. Et parce qu'il ne mourra pas de cette façon, il affronte les vrais blasphémateurs. Et nous y reviendrons la semaine prochaine. Seigneur, nous te remercions encore ce matin d'avoir pu nous rassembler, dans le but de nous concentrer sur la croix, sur de magnifiques hymnes qui parlent de la rédemption achetée là pour nous. Nous te remercions de nous avoir choisis pour être tes brebis. Tu nous as appelés par notre nom. Tu nous as permis, par le Saint-Esprit, d'entendre ta voix, de te suivre et de ne jamais suivre un étranger. Nous te remercions de nous conduire vers des pâturages verts et des eaux calmes. Tu pourvois pour nous, tu nous protèges, tu nous sécurises, tu nous amènes aux joies florissantes du royaume éternel. Nous te remercions que tout cela soit possible, parce que le berger a donné sa vie pour les brebis. Le bon berger a donné sa vie pour les brebis. Nous te remercions pour la mort du Christ. Nous te remercions pour les réalités étonnantes qui nous appartiennent à jamais, à cause de ton sacrifice et à cause de ton choix éternel. Remplis nos cœurs de gratitude qui se traduit par la pureté de la pensée, de l'esprit, de l'action, pour honorer celui qui nous a tant honoré. Comment pourrions-nous être ingrats? Comment pourrions-nous entretenir le péché? Face à cela, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.